Le gouvernement Arizona a trouvé un accord pour supprimer le Sénat. Et oui, l'objectif est que cela soit effectif dès la prochaine législature. On en parle avec Alain Destex, sénateur honoraire. Il est au micro de Blaise Van der Linden.
Alain Destex, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Radio Judaïka. Alors aujourd'hui, on va aborder ce sujet que nous avons appris ce mardi matin. Les partis de la coalition Arizona se sont accordés sur les principes accompagnant la suppression du Sénat. Les compétences du Sénat vont dans un premier temps intégralement être transférées à la Chambre. Ces dernières semaines, Bart De Wever ne parvenait pas à rassembler tous ses partenaires de majorité autour de ce mode opératoire. Visiblement, il y est arrivé. Alors, Alain Destex, vous êtes sénateur honoraire. Avant d'analyser cette décision, racontez-nous un peu l'importance du Sénat et quelles sont les compétences du Sénat en Belgique.
Bon, moi, j'ai passé 20 ans au Sénat de 1995 à 2019 avec une interruption de 4 ans. Donc, j'ai vraiment vu le rôle du Sénat évoluer d'un système entièrement bicaméral en 1995, c'est-à-dire toutes les lois devait passer par les deux chambres à un système où finalement la Chambre des représentants a pris le dessus et le Sénat n'avait plus qu'un droit d'évocation, des compétences d'enquête et des compétences internationales. D'ailleurs, les sénateurs n'étaient plus élus directement, mais désignés par les régions et communautés, alors que quand j'ai commencé en 1995, on était élus sur l'ensemble de la circonscription Wallonie-Bruxelles, c'est-à-dire avec 4000 habitants potentiels. Et donc, on avait une très grande légitimité puisqu'on était élu par tous les francophones de Belgique. Mais ce n'était peut-être malheureusement plus le cas ces dernières années.
Alors, quelles pourraient être justement les conséquences? À vous entendre, ce Sénat était devenu peut-être un peu obsolète, peut-être inutile?
Oui, alors oui et non, il était devenu un peu obsolète parce que le système belge est déjà tellement compliqué avec tellement d'assemblées, des régions, des communautés, une chambre des représentants, des mécanismes un peu obscurs et barbares comme la sonnette d'alarme entre les communautés, ce genre de choses. Mais en réalité, le principe même du bicaméralisme est quelque chose d'utile et qui existe dans la plupart des grandes démocraties. En fait, il y en a très très peu qui ont supprimé un système bicaméral. Je crois qu'il y a quelques pays scandinaves, mais pour le reste, dans tous les pays d'Amérique latine, d'Amérique du Nord, d'Asie, d'Afrique, où il y a des démocraties, et dans presque tous les pays d'Europe, le bicaméralisme reste la règle et présente quand même un intérêt et quelques avantages. Si je peux les développer, les sénateurs, le Sénat, ça vient de la tradition romaine, hein. Le Sénat, dans toutes les démocraties du monde, a toujours eu un rôle un peu en surplomb, si vous voulez, un rôle de recul et de chambre de réflexion. Les députés sont élus directement par le peuple et donc sont aussi plus sensibles aux humeurs du peuple. Et les sénateurs, donc, c'est le principe même qui avait été voulu par les pères de la science politique moderne, Montesquieu, Knorr, Locke, Mill et d'autres, c'était de dire, on ne doit pas trop se précipiter pour faire des lois, et d'où l'intérêt d'avoir une seconde chambre qui examine à froid et pas à chaud les lois avant de les adopter. Donc, si vous voulez, c'est le principe de la démocratie un peu tempérée par l'oligarchie. Ça remonte très loin, hein, ça remonte à l'Antiquité et à Rome. Donc, d'un côté, je comprends très bien qu'avec déjà autant d'assemblées, des régions, des communautés, un système institutionnel hyper complexe et qui en plus ne fonctionne pas bien, on veuille supprimer le Sénat. D'un autre côté, il y a toute une série de lois, je pense à toutes les lois éthiques, par exemple, sur l'euthanasie, le suicide assisté, la procréation médicale assistée, ou bien les lois, le code pénal, la réforme judiciaire, ce genre de choses. C'était, à mon sens, très utile d'avoir un deuxième regard, une deuxième lecture, sachant qu'en fin de compte, si le Sénat et la Chambre n'étaient pas d'accord, le dernier mot revenait à la Chambre. C'est ce qui se passe en France, si vous voulez. Le Sénat français souvent amende des textes votés par l'Assemblée nationale En fin de compte, l'Assemblée nationale tient compte ou pas, mais souvent elle tient quand même compte des remarques du Sénat, parce que le processus de réflexion, le processus législatif y est, à mon avis, souvent de meilleure qualité que à la Chambre des représentants en Belgique ou à l'Assemblée nationale, où on est soumis en permanence à la pression populaire, à la pression des médias, à la pression de l'instant. Donc voilà. Personnellement, je regrette plutôt la suppression du Sénat, mais d'un autre côté, je la comprends parfaitement dans le cadre belge.
J'aimerais revenir sur un argument que vous avez étayé. C'est le fait donc que maintenant ce ne sera plus que la Chambre qui va décider. Il y aura un manque de dialogue, un manque de paroles différentes, non? Avec la disparition de ce Sénat, un manque de discussion?
Non, mais oui, très bien. Imaginez, d'ailleurs, ça s'est déjà produit, même si je ne vois pas comme ça directement, mais d'exemple, enfin si j'en vois un, imaginez une crise aiguë, une affaire du trou ou une crise internationale. La Chambre vote en urgence, je ne sais pas moi, hein, le rétablissement de la peine de mort ou quelque chose comme ça. Et puis, ben voilà, c'est passé, ça devient une loi immédiatement. Ben, on peut se dire que ce serait intéressant d'avoir une seconde lecture. Moi, je me souviens, je ne l'ai pas voté puisque j'étais sénateur et on était déjà privé de ce pouvoir, mais en urgence, la Chambre des représentants a voté la guerre en Libye, la participation de la Belgique à la guerre en Libye. Bon, c'était une erreur, hein, rétrospectivement, mais ça a été voté en deux coups de cuillère à peau, en une semaine, quasiment. Donc là, dans ce cas-là, on peut se dire, mais est-ce que ça valait pas la peine de réfléchir un peu plus avant de se lancer dans l'aventure? Et on peut trouver d'autres exemples. Par exemple, c'est le Sénat belge qui a été à l'origine de la loi sur l'euthanasie. On a débattu pendant un an. Moi, je faisais partie de cette commission. Il y a eu un an d'audition. Après, on peut être d'accord ou pas avec le résultat, mais il y a eu un vrai débat pendant un an, avec une trentaine de semaines d'audition, l'audition de médecins, d'infirmières, de philosophes, de professeurs d'université. Enfin, il y a vraiment eu un large tour d'horizon. Bon, je vois mal la Chambre des représentants faire ce travail, parce qu'elle n'a pas le temps. Elle doit d'abord soutenir le gouvernement, l'opposition doit faire son travail d'opposition, il y a une série de commissions d'enquête entre-temps, il y a l'actualité qu'il faut traiter. Donc ce travail de réflexion de fond, à mon avis, est mieux fait par une chambre haute que par une chambre basse. Moi, j'ai été, par exemple, comme vous le savez, à l'origine de la commission d'enquête sur le Rwanda. Après l'assassinat des 10 parabelges et du génocide des Tutsis, ben là aussi, on s'est donné quasiment un an pour établir les faits et les responsabilités. Et à l'époque, Guy Verhofstadt était sénateur et a participé à tous les travaux. Je vois mal une chambre des représentants ou une assemblée nationale en France faire ce travail aussi posément et aussi correctement.
Alain de Stex, vous avez évoqué l'actualité. Évidemment, l'actualité, c'est la guerre au Proche-Orient qui reprend de plus belle entre Israël et l'Iran. Justement, ce manque de discussion au Sénat peut-il avoir des conséquences sur la position de la Belgique, notamment vis-à-vis d'Israël? On a encore vu le ministre des Affaires étrangères, Maxime Prévot, qui a appelé à davantage de sanctions contre l'État hébreu.
Oui, ben on le voit, hein, si vous voulez, tout ce qui touche à Israël et à Gaza est devenu très très émotionnel, et la Chambre réagit souvent par des résolutions rapides, un peu à l'emporte-pièce. Le Parlement bruxellois, qui n'a aucune compétence dans la matière, est encore pire, puisque là, on vote, je pense, quasiment tous les mois, ou on discute tous les mois une résolution sur Gaza. Et effectivement, je pense que sur ces questions de fond, une chambre haute, une chambre de réflexion a toute sa place. D'ailleurs, j'ai oublié de mentionner qu'une des compétences que le Sénat avait gardées, c'était la ratification des traités internationaux. Et effectivement, pour les traités internationaux, ça vaut la peine d'avoir une double lecture avant de s'engager de façon quasiment définitive, hein, en tout cas à très long terme pour les traités internationaux, puisque une fois qu'ils sont ratifiés, on revient rarement en arrière. Donc voilà une compétence qui est perdue pour le Sénat, et c'est très dommage. Et effectivement, dans le cas d'Israël, on sait que malheureusement, il y a aujourd'hui une majorité parlementaire qui est pro-palestinienne, voire pour un certain nombre d'entre eux favorable au Hamas. Je ne pense pas que ce soit le cas dans l'opinion belge globalement, malgré tout ce que font les médias pour avoir une position biaisée pro-palestinienne. Mais effectivement, pour tout ce qui est relations internationales, traités internationaux, je crois qu'une double lecture par le Sénat, une chambre haute, est utile.
Alain de Staël, je rappelle que vous êtes donc sénateur honoraire et ancien secrétaire général de Médecins sans frontières. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Radio Judaïka.
Merci à vous, à bientôt.